Salut, c'est Capucine, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans les Entretiens Positifs, un podcast de pandémie. Ici, on va discuter entre amis, en tête à tête. Le sujet y est choisi par mon invité, puis on va s'en parler en toute intimité. Donc, il y a tout, des choses plus personnelles, des choses qui font réfléchir, ou de façon générale, des choses qu'il ou elle avait le goût de partager. L'idée, c'est pas tant de trouver des réponses que de se poser des questions. Enfin, j'espère que ça t'inspirera. Je te souhaite une bonne écoute.
J'ai rencontré Léo en mars 2020, aux prémices d'une période plutôt anxiogène qui s'est pourtant avérée assez vite propice aux confidences. Léo aime se parler et on en a eu des discussions sur des sujets aussi intimes que légers. Parfois, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis des années tellement ça nous a rapprochés. J'admire profondément sa sincérité et la facilité qu'il a développée à exprimer ses émotions avec justesse. De son bord, il m'encourage activement à exprimer les miennes et à en parler plus librement. Selon lui, ça pourrait aider à avoir l'esprit plus clair quand on se pose trop de questions.
Ce que je disais quand je disais que je me questionnais trop, c'est que je vis avec une certaine anxiété justement de déplaire aux autres ou encore de pas être à la hauteur, par exemple. Mm-hmm. Puis c'est quelque chose qui est quand même assez présent dans ma vie. Puis c'est quelque chose que j'essaie de mettre de côté. Mais malheureusement, ça vient beaucoup justement avec le surquestionnement un peu de ce que je fais.
On est quand même tous les deux un peu d'accord pour dire que pas assez se questionner, c'est un peu comme foncer droit dans le mur sur bien des choses.
Ouais.
En vrai, j'aurais plusieurs exemples parce que moi, je suis la reine. On dirait pas comme ça parce qu'on dirait que je me pose beaucoup de questions, mais je me questionne pas assez sur la globalité de ce que je suis en train de faire, tu sais. Et je me rends compte après.
Tu fais comme des micro-tâches à travers quelque chose de plus gros, mais tu te poses pas la question sur c'est quoi la tâche plus grande, qu'est-ce que ça accomplit vraiment.
C'est un peu ça mon problème, effectivement.
Ah ouais. Ok.
Peut-être un manque de recul sur la. Ouais. Comme un manque de projection aussi, peut-être. Je pense que, d'une certaine manière, je voulais pas trop me casser la tête sur comme ça allait être quoi, ma vie amoureuse, et ça allait être qui mon genre de partenaire, tu sais.
Mm-hmm. Ouais, je le vois, mais...
J'ai été en couple pendant vraiment longtemps avec un gars, genre, si tu m'écoutes, j'étais en couple avec lui, puis genre, c'était lui mon partenaire, puis je l'aimais, puis on allait finir notre vie ensemble, puis genre, je me questionnais pas, là. Sauf que ce que j'avais oublié, c'est qu'en fait, j'étais aussi attirée par les filles. Et je le mettais tellement dans une boîte à part de comme genre, je veux même pas laisser la porte entrouverte à que ce soit une possibilité, que le jour où j'ai dû dealer avec ça, parce que c'est arrivé, ben, j'ai fait du déni. Et donc, j'ai fait du déni, jusqu'à ce que ce soit tellement gros, j'étais en train de comme genre construire une relation avec quelqu'un d'autre, puis tout le monde était face à la situation, puis tout le monde le voyait, tu sais. Mm-hmm. Puis moi, j'étais encore dans mon déni parce que je me posais pas cette question. Fait que tu vois?
Ouais. Ok. Il y a juste eu un moment, en fait, de ma vie où j'avais la chienne de changer par peur de me retrouver dans un endroit que je voulais pas me retrouver, puis de me rendre compte que j'avais fait une erreur. Puis ça va beaucoup, justement, avec la mentalité de dire « je veux pas faire d'erreur, je veux pas déplaire ». Ben, à travers ça, en fait, je me suis comme, justement, placé sur un point de vue qui était tellement pour me préserver. J'étais dans une espèce d'état où je me disais « je veux rien savoir de prendre de la drogue », l'alcool, je suis en contrôle de moi-même. J'avais juste l'esprit fermé, en fait. Puis moi, je me questionnais pas à ce moment-là, parce que je me disais, mais non, mais c'est comme ça que ça se passe. Ma vie, c'est ça, puis je suis bien avec ça. J'ai pas envie de me retrouver, je sais pas, moi, dans une situation comme n'importe qui pourrait se retrouver, puis qui revient, puis qui nous compte ça, puis qu'il s'est passé de la merde, tu sais. Puis ce que je voyais pas, c'était tout le fun que ces gens-là avaient, mais pas juste par les activités qu'ils faisaient, mais juste de passer à travers des situations, puis te faire frotter à des choses que t'as pas, des questions que tu t'es pas posées, mais aussi des réalisations positives sur toi-même.
L'apprentissage par l'expérience?
Ouais, l'apprentissage par l'expérience. Puis moi, dans ma tête, je me dis, ben non, en fait, les choses positives, ça va être de quoi je vais apprendre à la dure, je vais être fort, etc. Je pense que ça découlait beaucoup d'une sorte de vision aussi qui était donnée par la manière dont on éduquait aussi ben, les gars.
Est-ce que tu penses que tu t'es fait dire qu'il fallait que tu aies des convictions puis que tu t'y tiennes maintenant?
Oui. Oui, oui. Je pense juste qu'il n'y a pas eu de subtilité dans mon train de pensée. Puis ça en est resté, en fait, comme au premier degré. Je voyais pas comment ça pouvait être négatif parce que c'est très difficile de voir comment ta vie peut aller mieux, en fait. Tu peux pas t'imaginer avoir un point de vue différent puis te rendre compte que...
Tu peux pas t'imaginer les choses que t'as pas vécues, hein?
Ben non, mais c'est clair. Mm. Exact. Ça m'est arrivé pendant vraiment tout mon secondaire, en fait. Une grosse partie de mon secondaire. Je pense que ça va beaucoup avec la période où la plupart des gens se remettent en question puis essaient de se trouver une identité. Puis je me rappelle que je suis passé à travers une période où même j'étais presque méchant, en fait, avec les gens autour de moi. Parce que je me disais, je vais pas me laisser marcher sur les pieds, j'ai pas envie de me laisser, tu sais, tasser d'un bord puis de l'autre. Le milieu, en fait, dans lequel on était, c'est soit t'étais avec, tu sais, la gang des cools dans un groupe quelconque, ou t'étais à l'extérieur de ça, puis tu vivais un peu en outcast. Puis je trouve que c'est drôle, c'est très typique, tu sais, de
des films américains.
Oui, des films américains.
À quel moment est-ce que t'as crack open? Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai pris une pause entre la fin de mon secondaire et le début de mon cégep. Puis c'était comme une sorte de perfect storm de situation où j'avais vécu une rupture qui avait été très difficile. J'avais vécu justement comme la réalisation que je pouvais pas rentrer à l'école. Fait que je me suis comme rendu compte que mon parcours était pas tracé devant moi. J'ai eu un moment où je me suis retrouvé.
Tous les questionnements que t'avais tassés.
Ben oui.
Pendant toutes ces années,
tout explosé
à force coup. D'être aussi dogmatique, tu t'es comme tout repris dans la face, en fait.
Pendant cette session-là, j'ai fait un voyage en Europe. Ma mère, elle m'a dit « Ok, Léo, tu files pas, on t'emmène. » Puis c'était, ça faisait des années que ma mère a dit « On va partir en voyage à un moment donné, on va se trouver un moment. » Puis elle a dit « Ok, là, je pense que c'est le temps. » Puis je me rends compte, en fait, en ce moment, en en parlant, à quel point ça a été un dépaysement pour moi, pas juste de paysage, de pays, mais de regard sur la vie, en fait. Pas exclusivement le voyage, là, mais vraiment le condensé de toute cette session sabbatique-là. Puis durant cette session-là...
Ça t'a donné le recul pour commencer à te questionner, probablement.
Ouais, totalement. Ouais. J'avais un ami qui était déjà au cégep, Brando, qui était déjà rentré dans la cohorte. Puis moi, je savais que j'allais le rejoindre, en fait. J'ai été chillé avec les habits que Brando se faisait. Puis en me rendant là, je me suis retrouvé avec des nouvelles connaissances. C'était du monde qui était, pour moi, à ce moment-là, c'était du monde qui était fucké. C'était du monde qui était weird, quirky. Moi, j'achetais là en or, tu sais, à Bois-de-Boulogne. Puis cette cohorte-là, je trouve qu'il y avait vraiment, vraiment des personnes extraordinaires à l'intérieur, puis aussi extrêmement variées dans leur point de vue. Il y avait aussi de la variation dans leur orientation sexuelle, puis identité de genre, orientation sexuelle, origine. J'étais pas tant fermé d'esprit au point de dire que genre, oh mon Dieu, j'avais des opinions racistes, mais c'est plus que je me rendais pas compte à quel point j'étais pas ouvert d'esprit. Puis,
et toi, ça t'a juste ouvert la brèche, là?
Ben, je me suis rendu là, puis j'ai fait, ok, je sais ce que je veux pas être.
Rigide.
Ben oui. Quand eux, en fait, ont fini leur session, je m'étais fait les meilleurs amis que je m'étais fait. Puis je leur ai tout dit, hey, je suis tellement content d'avoir rencontrer du monde comme vous autres, parce que je pense pas que que je me serais posé les questions que je me serais posé avec un autre groupe. Ouais. Puis en fait, j'avais la preuve en temps réel, parce que j'étais avec l'autre corps d'après. Ils voyaient les choses de manière très, très rigide, justement. Ils restaient dans des états d'esprit qui étaient très enfantins. Tu sais, c'était beaucoup de gens qui
puis maintenant que tu savais pourquoi d'arriver à se poser ces questions-là, tu avais comme plus le goût de revenir en arrière.
Totalement.
Mais donc, à quel moment tu dirais que t'as tapé l'autre mur, c'est-à-dire que tu t'es comme genre retrouvé noyé dans ton questionnement? Parce que c'est ça, on se fait des règles qui nous permettent d'avancer dans la vie. Quand les règles sont trop rigides, on est malheureux, mais peut-être qu'effectivement, il faut quand même qu'on en ait une certaine quantité pour pas se retrouver complètement perdu.
Pour moi, c'est comme si c'était hier, mais en fait, le temps qui est passé en un claquement de doigts. Mm-hmm. Mais en fait, c'est quand j'ai terminé l'université. Je suis rentré directement chez Ubisoft le lendemain. Genre littéralement, là, comme je me suis même posé la question, et quelqu'un qui est venu me voir, il a dit genre, ok. J'ai envie de passer l'entrevue. J'étais comme, ok, je m'attendais à passer un mois sans job, à faire autre chose. Puis je me suis dit, cool, nice, genre super. J'avais l'impression d'avoir atteint ma destination, que ça faisait depuis que je suis tout petit, en fait. Ça avait régressé en termes de liberté créative, parce que justement, c'était contraint dans un travail. C'était un moment où je me suis questionné tellement, mais je me suis questionné tellement que je tombais dans l'inaction, en fait, parce que je me rendais compte, ou plutôt, je me rendais pas compte de il y avait trop de choix, il y avait trop d'options. Peut-être que j'avais fait une erreur, peut-être que non, peut-être que je pouvais abandonner, aller dans un autre domaine, peut-être que je pouvais aller avec un petit studio indépendant pour avoir plus de créativité, mais est-ce que c'était ça que je voulais?
Peut-être que des fois, quand on se questionne trop, on en vient à genre se braquer et pas se questionner assez parce que c'est juste trop compliqué de prendre une décision, fait qu'on remet la décision aux mains des autres.
Comme s'il y avait une sorte de comportement automatique pour contrer une action qui est à un extrême, en répondant par l'autre extrême.
Absolument, en fait, on fait que taper les murs dans tous les sens. Ouais. Hein. Moi, clairement, j'ai vécu ça avec mes études. Je me suis fait dire qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, tu sais. Puis j'ai comme pas assez challengé, je pense, l'opinion de mes parents par rapport à ça. Ou alors j'ai juste été trop lâche pour vraiment comme tenir mon point parce que j'aimais beaucoup les sciences et j'aimais beaucoup l'art et les lettres.
Ouais.
Et je performais quand même bien dans les deux disciplines, mais à un moment, il fallait faire un choix. Genre. Et mes parents, à cause de mon jeune âge, se sont dit qu'il fallait que je devienne ingénieur parce que c'était une profession qui allait me porter quelque part. Une vraie profession, un vrai métier. Mais aussi parce que j'avais aucune crise d'idée de ce que je voulais faire. T'sais. J'étais vraiment pas... Justement, j'étais pas déterminée. Ce qui fait qu'éventuellement, ils m'ont mis dans un chemin. Je savais que c'était pas ça que je voulais faire, mais j'étais comme pas assez daring pour comme me questionner. C'est pas tant que je me suis pas assez questionnée, c'est que je me suis pas questionnée de la bonne manière, je pense. Ce qui fait que je me suis comme genre retrouvée perdue. J'ai comme commit à l'opinion de quelqu'un d'autre parce que j'ai pas osé me questionner.
Ok.
Ouais, en fait, je pense que c'est plus ça.
C'est comme tomber dans un autre piège.
Ou... L'ampleur du questionnement qui se présenté devant moi était trop important. J'ai fini par déléguer la décision à quelqu'un d'autre qui a pris la décision pour moi, en fait.
Ouais, ok.
Basically, quand tu t'es retrouvée dans cette période où là, d'un coup, tu savais plus qu'est-ce que tu voulais faire, t'étais plus autant stimulée qu'avant, tu disais que tu disais plus rien, c'est ça, c'est que finalement, t'es tombée dans un état un peu léthargique.
Encore une fois, il y a comme un confort qui s'était réinstallé. Parce que je me disais, je sais plus ce que je veux faire, je sais pas c'est quoi la direction que j'ai envie de prendre. Puis dans l'incertitude, je me dis, mais en fait, est-ce que... Peut-être que je me trompe, parce que justement, j'ai pas fait toutes ces années d'études-là pour me retrouver une place où finalement, je me rends compte que c'est pas exactement comme je pensais, ou c'est trop différent de ce que je pensais. Fait que ça a été rapide de me rendre là, mais ça a été très long, en fait, avant de me dire « je vais faire un move », parce que je me suis comme rendu compte que j'étais peut-être pas heureux, mais j'ai essayé de me convaincre que je l'étais peut-être, en réalité, sans... Techniquement, j'essayais juste de me dire « non, c'est bon, Léo, t'as fait le bon choix », tu sais.
Ouais.
Ben, en fait, je me rends compte que j'aurais quasiment eu besoin d'un... l'équivalent
d'une sabbatique. Oui, de te refaire une sabbatique.
Pour oui, absolument, pour me permettre de me ressourcer après ce que j'ai appris puis ce que j'ai pu faire.
Pour te poser les bonnes questions, en fait, finalement. Exact. On est tellement face au vide de toutes les questions qui pourraient nous remettre en question qu'on est comme, OK, je vais pas prendre de décision.
C'est ça. Qu'est-ce que tu fais pour trouver les bonnes questions à te poser? J'en sais que tu me donnes ton secret si t'en as trouvé.
Je sais pas. Mais je pense que je peux dire que je fais de l'introspection.
Ouf. Ça peut être très difficile de faire de la bonne introspection.
C'est très difficile de faire de la bonne introspection, mais je pense que c'est quelque chose qui s'apprend. On fait faire des exercices à notre corps pour le rendre plus fort, plus résistant et plus l'amène à comme genre répondre à des tâches. Je pense qu'on peut faire la même chose avec notre esprit. T'sais. Parce qu'on est super bon pour se placer dans des situations où c'est tellement... effrayant que on peut juste comme complètement mettre de côté une situation parce que c'est genre trop risqué de juste s'y aventurer.
La chienne.
Ouais, c'est ça. Identifier c'est quoi tes peurs et juste arrêter d'être dans le déni. Et quand t'as arrêté d'être dans le déni, déjà t'as quand même fait une partie de la job. Quand tu fais les choses à moitié, souvent tu te mets pas les bonnes circonstances pour réussir, mais pour autant t'auras investi de l'énergie, donc t'es juste déçu parce que je pense que pour faire des choses dans la vie, il faut quand même s'investir dedans, dans le sens où il faut prendre des décisions. Et donc, il faut minimalement, à un moment donné, arriver à un point de questionnement où tu dois admettre certaines vérités. Ça ne veut pas dire que comme genre, tu les re-questionneras jamais, mais ça veut dire que comme temporairement, tu prends la décision active de dire « bon, je vais considérer que ça, c'est vrai, juste pour pouvoir avancer ». Et en fait, on fait tout le temps ça en science. Il y a des théories qu'on admet, qu'on sait que peut-être un jour, elles seront rediscutées, puis elles seront réfutées. Mais pour le moment, on en a besoin pour continuer notre recherche. En fait, on a même peut-être besoin de les considérer comme vrais pour pouvoir un jour les contester.
C'est un peu le fait de se poser moins de questions. Mais en fait, c'est se poser moins de questions à un moment opportun. OK, ça fait tant de temps que je me suis posé des questions sur le sujet. Je pense que j'ai exploré un minimum mes options. J'ai pas de réponse, mais c'est pas grave. Je vais juste agir en faisant une des choses que j'ai trouvées. Donc, si c'est faire le saut pour aller travailler dans un domaine ou dans un autre, ben c'est de faire un choix puis de commit, en fait.
Et je pense que c'est super important de garder en tête que tu t'es basé sur des postulats et que peut-être ces postulats sont pas vrais. Que pour l'instant, tu considères qu'ils sont vrais, mais si jamais t'oublies de comme les re-questionner éventuellement, c'est là où tu vas devenir dogmatique. Moi, en ce moment, je sais pas si je veux devenir prof ou pas. Je sais que j'aime enseigner. Un des postulats sur lequel je pourrais me baser pour prendre la décision, ça serait « ok, je tripe sur l'enseignement ». Mais peut-être que c'est pas vrai, peut-être que je trie pas tant que ça sur l'enseignement. Mais en ce moment, oui. Mais si jamais je reste bloquée là-dessus et j'oublie de le re-questionner, peut-être que dans 10 ans, je vais être fucking malheureuse, mais je vais continuer à me dire « Non, mais Capucine, tu tripes sur l'enseignement, t'es supposée aimer ça. » Puis là, là, je vais me retrouver en dissonance totale parce que j'oublierais de me rappeler que cette décision-là...
C'est à quel moment dans ce processus-là, par exemple, tu penses que tu te demanderais « Ok, je pense qu'en ce moment, je suis en train de faire exactement ce que je voulais pas faire. Je tombe dans mon piège de pas suffisamment me ramener sur le sujet. En » fait.
Mais justement, c'est un peu l'axe où je voulais m'en aller.
Okay.
C'est que je pense que pour se poser les bonnes questions, pour faire de la bonne introspection, on peut pas le faire tout seul. Et c'est super paradoxal parce que dans le terme introspection, souvent... C'est genre, je pense à moi-même, je réfléchis sur moi-même, mais je pense que sans l'input des autres et régulier, on est complètement perdu. Parce qu'on ne sait plus c'est quoi qui nous a été imposé par notre éducation, par la société, etc. et c'est quoi qu'on veut vraiment.
Je suis d'accord.
Et au final, c'est le contact régulier avec des gens, que ce soit les gens qui nous connaissent très bien ou les nouvelles rencontres comme toi t'as fait au cégep qui vont complètement shifter nos points de vue et qui vont nous permettre de nous dire « Oh shit, j'avais aucune idée que ce point de vue-là existait. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est intéressant. » Et ça me fait complètement reconsidérer bien des affaires. La solitude que nous a apporté cette dernière année de COVID nous a tous plongés dans des introspections qui ont pu être bénéfiques dans une certaine mesure, mais qui ont aussi pu devenir extrêmement anxiogènes parce que t'as plus de métrique, tu sais plus c'est quoi que t'es en train de t'auto-imposer, tu vois plus des limites à ton déni, tu t'es complètement perdu. Et je me souviens que c'est la dernière phrase. J'avais fini le podcast avec Laurent, avec cette phrase-là, j'avais dit « Paradoxalement, à force de passer trop de temps avec soi-même, on finit par se perdre. » Et moi, je pense que c'est vrai.
Oui, je pense aussi. Je pense vraiment que, justement, d'avoir des gens qui évoluent avec toi à tes côtés, que ce soit des amis proches, que ce soit des gens que t'as côtoyés, qui te servent un peu de bouée, en fait. Sans nécessairement dire « Ah ben, je m'appuie sur eux exclusivement. » C'est plus de dire « Non. »
Mais sans, faut pas outsourcer. Faut pas leur demander de prendre des décisions pour toi.
Exactement. Mm-hmm. C'est ça. C'est plutôt d'avoir des discussions qui vont te permettre de te recentrer un peu. Puis encore une fois, de te faire ouvrir l'esprit par eux. Je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. Puis je pense que jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que j'ai vécu beaucoup. Puis surtout, en fait, durant la dernière année, où j'ai les quelques fois où j'ai vu mes amis, je me suis rendu compte à quel point je pouvais tomber dans des délires quand j'étais tout seul chez nous. Mm-hmm. Ou quand j'étais avec tout le temps les mêmes personnes. À chaque année, depuis... Ouais, ça fait presque 10 ans maintenant. Ouais. Chaque année, depuis presque 10 ans, j'organise un voyage avec mes amis au Québec. Durant ces voyages-là, les premiers, on n'était que quelques-uns. Il y a un moment en particulier qui est arrivé où tout le monde, naturellement, autour d'une bouteille de whisky sur le bord du fleuve, on s'est mis à discuter de l'année qu'on venait de passer. Tous les moments challengeants qui nous sont arrivés, ça a été une année extrêmement difficile en fait à ce moment-là. Puis ça a été une sorte de moment de soulagement où je pense qu'on s'est rendu compte que ça nous enlevait un poids sur les épaules, que de juste expulser un peu tout ce qui est arrivé. Puis on s'est dit qu'on s'aimait, on s'est dit qu'est-ce qu'on voulait, la vision qu'on avait de notre futur.
D'une certaine manière, vous avez cité les règles sur lesquelles vous vouliez vous baser pour continuer à vivre. C'est-à-dire, je fais le bilan de ce que j'ai vécu, confronte qu'est-ce que j'ai vécu à ce que vous pensez, et je me cède des objectifs pour l'année dernière, qui sont peut-être amenés à changer, mais qui au moins vont m'aider juste à ne pas sombrer dans l'infinité du questionnement.
Je pense que c'est une des séances d'introspection collective les plus claires que j'ai jamais faites. Puis ça m'a vraiment, vraiment shapé pour les années qui ont suivi. Ça a été une révélation.
J'aime bien le terme d'introspection collective.
Ouais.
Je pense qu'il est très cool. Si jamais on n'a pas fait assez de réflexion seul, on peut tomber dans le piège de juste déléguer nos décisions.
Ouais.
Mais à partir du moment où on est capable de ne pas le faire, puis de se rendre compte que c'est à nous de prendre les décisions pour nous-mêmes, l'aide des autres est précieuse. Là. Puis il ne faut pas hésiter à la demander. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont ashamed aussi, qui pensent peut-être que tout devrait venir d'eux-mêmes constamment, tu sais, puis qui n'ont comme pas besoin.
Ça, c'est le piège de l'ego, en fait.
Ouais.
Le désir de se renforcer soi-même, d'en savoir plus sur soi-même, un peu de se maîtriser, puis pouvoir maîtriser en fait comment t'interagir avec les autres autour. Là, c'est vraiment très facile de ne voir qu'à travers des œillères.
Pour te conforter dans un point de vue, comme ta introspection devient une façon de te...
Ouais. Ben pour te conforter.
Pour te répéter à quel point tu as raison de penser de même?
D'une part, probablement, oui, intuitivement, mais c'est facile de se dire que tu es fort parce que justement tu es capable seul. Puis je pense que c'est quelque chose qui est aussi beaucoup prôné en général dans la société. Puis en fait, tu sais, j'ai des amis, filles qui parle beaucoup de ça, en fait, de dire je veux être forte, je veux montrer que je suis capable tout seul, je veux pouvoir faire des choses, puis j'ai pas envie de m'appuyer sur les autres.
Trop facile. On comprend d'où ça vient, là.
Ouais.
Ça vient clairement de,
oui, absolument.
De l'éducation, où justement, malheureusement, on... bah, puis ça change, tu sais, mais
ben, comme j'ai l'impression passé, que c'est comme un mix, en fait, d'éducation parentale qui disent « je veux que vous preniez votre envol, que vous fassiez vos choses, que vous ayez du succès dans la vie, que vous soyez capable de prendre des décisions par vous-même. » Après ça, t'as le prisme, justement, de centaines d'années de sexisme puis d'oppression. ça peut devenir malsain facilement de dire beaucoup aux gars, tu sais, « soyez forts », etc. Puis même si l'intention initiale est bonne, ben, j'ai l'impression qu'assez vite, en fait, tu tombes dans une espèce de loop personnel, puis là, ça, tu te retrouves avec juste comme l'ego blessé qui se dit genre, non, je suis capable seul, je vais le faire seul, je vais pouvoir réussir. Ouais. Si je m'appuie sur les autres, je suis faible, je dois montrer que j'ai des qualités. Puis là, c'est comme, ben non, Christ, t'as des défauts. Essaie d'agir un petit peu en conséquence, puis que tout le monde en a, tout le monde doit t'accepter avec ça.
Puis remettons en question un petit peu.
Puis remettons en question là-dessus, puis je pense que justement, c'est des moments où le monde se pose pas la question. Hey, j'ai peut-être un problème dans la manière dont j'agis, parce que c'est facile de se dire, ben...
Parce que des fois, quand tu te poses des questions, encore
une fois,
se poser une question, ça peut être ne pas être capable de trouver les ressources pour se poser les bonnes, puis juste tomber à l'inverse, ou d'un coup, t'as peur que plus rien n'ait de sens, tu sais, fait que dread le moment de te poser des questions parce que tu veux pas
il perdre toute c'est confiance en toi, tu sais. De te poser des bonnes questions. Mais tu vas voir un psy, puis il va être comme, hey, t'as-tu pensé à ça?
Je pense que de façon générale, on a peur de la perte de contrôle dans la vie, tu sais, et que parfois, tu te dis, ok, si je remets ça en question, ben là, c'est tout qui s'écroule, puis qu'est-ce que je fais maintenant, tu sais? Et on n'est pas prêt à perdre le contrôle dans certaines choses parce qu'on a peur de tomber, comme ça t'est arrivé, tu sais, dans tellement de remises en question que tu sais plus qui t'es, genre. Malheureusement, ça peut aussi perpétuer beaucoup de manque d'ouverture qui fait qu'éventuellement, tu sais, par exemple, je pense en particulier en ce moment, les plus jeunes générations, elles remettent beaucoup en question les questions d'identité de genre, tu sais. Puis il y a des personnes que ça challenge énormément.
Vraiment.
Et comme ça les challenge beaucoup, elles préfèrent être réfractaires. Puis là, bah, ça fait que c'est des personnes qui vont juste pas grandir avec la nouvelle génération. Ça va créer un gap énorme, tu sais.
Mm-hmm. Puis tu te retrouves à devoir challenger tes parents. Puis eux n'acceptent pas parce que ça s'est jamais passé comme ça. Puis ils n'ont pas vécu de même. Il y a comme pas d'acceptation de la part des parents de dire « Hey, est-ce qu'en ce moment, je suis en train de complètement détruire la vie de mon kid parce que je considère pas ses besoins et ses désirs? »
Moi, je pense qu'on devrait être plus guidés. J'encourage fortement la mixité, c'est clair.
Oui.
Mais j'encouragerais fortement vraiment de la transsexualité dans plein de places. Que ce soit... Être exposé plus à des gens différents de nous. Raconter les histoires positives. Comme que les gens se racontent plus dans leurs expériences de vie, tu sais. Mm-hmm. Un peu comme ce qu'on est en train de faire en ce moment. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on pense qui passent par juste l'amour, tu sais. Et le fait de savoir que tu peux blesser profondément quelqu'un si tu l'acceptes pas et que... Et te mettre par rapport à ça, ben, je pense que ça peut être un moteur pour changer. On en entend des histoires là, de coparents qui sont extrêmement fermés, par exemple, à la sexualité de leur enfant. Puis des histoires terribles, mais qu'éventuellement, ça finit par come together at the end parce que les parents aiment leur enfant. Puis qu'il va bien falloir emmener qu'ils se posent les questions s'ils veulent juste les garder dans leur vie. Peut-être que si on nous apprend aussi plus l'amour de notre prochain et qu'on montre, regardez le mal que vous faites en n'étant pas capable de comme genre vous confronter vous-même parce que ça vous fait trop peur. Peut-être qu'éventuellement, on fera céder des barrières, je sais pas. Tu sais, il commence à y avoir des films sur le genre, la sexualité et tout ça, où tu montres vraiment des situations de détresse, puis les gens s'identifient, puis se disent « Et si c'était mon enfant, tu sais ?» Et puis là, ça fonctionne pas avec tout le monde, mais c'est ça. Je pense que l'exposition, même ne serait-ce que par l'imaginaire, peut quand même aider, dans une certaine mesure, pour que les gens essayent de se mettre à la place des autres.
Ben, moi, je vois bien un lien, en fait, entre le fait de s'exposer, et l'introspection et le questionnement personnel. Puis que je pense que beaucoup de monde ont vécu, probablement en partant en voyage humanitaire ou en n'importe quoi. C'est le cliché, mais ça reste que... je pense que c'est pour une raison. Il y a du monde qui font le choix volontairement, en prenant des risques. En fait, je pense que le meilleur exemple que j'ai qui m'a le plus impressionné, c'est justement un de mes amis d'enfance que j'ai connu il y a très très longtemps. Je pense qu'il a fait le tour de l'Europe au complet. Là. Il y a vraiment fait une tonne de pays. Ben, c'était la dernière personne en fait que je m'attendais à voir faire ça. Puis je n'étais pas prêt du tout à ce qu'il me disait, je pars pendant je sais pas combien de mois en Europe, tout seul. Puis là, quand il m'a dit ça, il est parti, il a fait son voyage, gardé contact et tout, mais quand il est revenu, Je veux dire, c'était encore la même personne, mais je voyais vraiment...
Les gens reviennent transformés de ce genre d'expérience.
Ben, absolument.
Oui, peut-être qu'ils se posent plus de questions qu'avant. Mais c'était au final, une bonne chose, c'était une bonne chose.
Ouais, c'est ça.
C'est probablement une bonne chose. En
fait. Ouais.
Est-ce que je t'amène de la... du questionnement?
Oui.
Mm-hmm. Sous quelle forme?
Tu m'as quand même aidé à me convaincre que c'était peut-être une bonne idée de quitter ma job de marde pour aller vers un job qui a plus d'allure. Puis je pense que ça, justement, c'est un peu l'espèce d'épitome de dire c'est important de faire l'introspection avec d'autres personnes qui peuvent nous donner un point de vue qui est différent ou nous remettre devant un point de vue qu'on n'osait pas s'avouer, mais que même quelqu'un qui ne nous connaît pas autant que nous-mêmes peut nous dire « Hey, c'est quand même une bonne chose à considérer. »
Est-ce que tu connais vraiment nous-mêmes? Moi, je suis pas
ça. Lance-moi pas là-dedans.
Merci beaucoup, Léo, pour ta participation. C'est pas un exercice facile hein, d'aller fouiller dans son passé pour essayer de tirer des leçons de nos expériences vécues, mais je te remercie de nous avoir confié tes choses puis de m'avoir amené à confier les miennes. Pour aller plus loin dans le questionnement, je vous conseille la pratique de la philosophie. Non, si vous êtes intéressé par la philo, évidemment, il y a le podcast Philosophize This de Stephen West dont je parle souvent. C'est comme un projet d'un an de l'écouter, là, il y a 150 épisodes. De façon générale, je vous encourage toujours à parler aux gens autour de vous quand vous vous sentez pas bien. C'est quelque chose que je fais pas assez, mais mon Dieu, j'essaye fort, je vous promets, j'essaye fort. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Profitez bien de la fin du couvre-feu. On sera libre quand le prochain épisode va sortir. Je vous embrasse tous, je vous aime et merci encore de me suivre. Bye.